question. Je croyais que Dieu n'avait ni jugement, ni opinion, et ne se préoccupait pas de ce genre de choses. Réponse. Attends, mettons les choses au clair. Au cours de notre conversation précédente, que tu as appelée tome 1, j'ai répondu à toutes sortes de questions. Des questions à propos des conditions de fonctionnement des relations, à propos du mode de vie juste, des questions de régime alimentaire même. En quoi est-ce différent de ceci ? Question, je ne sais pas, ça paraît différent, c'est tout. Écoute, as-tu vraiment un point de vue politique ? Es-tu membre en règle du Parti républicain ? Ce livre nous offre toute une vérité. Dieu est républicain ? Réponse, tu préférais que je sois démocrate ? Bonté divine. Question, assez malin. Non, je préférais que tu sois apolitique. Réponse, je suis apolitique. Je n'ai aucun point de vue politique, quel qu'il soit. Question, un peu comme Bill Clinton. Réponse, ah, elle est bonne. Maintenant, c'est toi qui es malin. J'aime l'humour, pas toi ? Question, je crois que je ne m'attendais pas à ce que Dieu soit drôle ou politique. Réponse, ou quoi que ce soit d'humain, hein ? D'accord, permets-moi de situer à nouveau, à ton attention, ce livre ainsi que le tome 1, d'ailleurs. Je n'ai aucune préférence en ce qui concerne ta façon de mener ta vie. Mon seul désir est que tu fasses pleinement l'expérience de toi-même en tant qu'être créatif, afin que tu puisses connaître qui tu es vraiment. Question. Bien, je comprends cela. Jusqu'ici, tout va bien. Réponse. Chacune des questions auxquelles j'ai répondu ici, et chacune des demandes auxquelles j'ai répondu dans le tome 1, a été entendue et a reçu une réponse dans le contexte de ce que toi, en tant qu'être créatif, tu dis tenter d'être et de faire. Par exemple, dans le tome 1, tu m'as posé de nombreuses questions sur la façon dont les relations pourraient enfin fonctionner. T'en souviens-tu ? Question, oui, bien sûr. Réponse, mes réponses t'ont-elles causé des problèmes ? As-tu trouvé difficile de croire que j'aurais un point de vue là-dessus ? Question, je n'ai jamais pensé cela, je me contente de lire les réponses. Réponse, mais tu vois, je plaçais mes réponses dans le contexte de tes questions, c'est-à-dire compte tenu de ton désir d'être ou de faire ceci ou cela. Comment procéder à ce propos ? Et je t'ai montré une façon. Question, oui, c'est vrai. Réponse, je suis en train de faire la même chose ici. Question, seulement c'est, je ne sais pas, plus difficile de croire que Dieu dirait ces choses-ci que ce ne l'était de croire que Dieu dirait ces choses-là. Réponse, trouves-tu plus difficile d'être d'accord avec certaines des choses qui sont dites ici ? Question, eh bien, réponse, parce que si c'est le cas, c'est très bien. Question, vraiment ? Réponse, bien sûr. Question, c'est bien d'être en désaccord avec Dieu ? Réponse, certainement. Qu'est-ce que je suis en train de faire selon toi ? T'écraser comme un insecte ? Question, je n'étais pas rendu si loin dans ma pensée en fait. Réponse, regarde, le monde est en désaccord avec moi depuis que tout a commencé. Presque personne n'a agi à ma façon depuis le début. Question, c'est vrai j'imagine ? Réponse, tu parles si c'est vrai. Si les gens avaient suivi mes instructions, que je vous ai laissées grâce à des centaines d'enseignants pendant des milliers d'années, le monde serait très différent. Alors, si tu veux être en désaccord avec moi à présent, ne te gêne pas. D'ailleurs, j'ai peut-être tort. Question. Quoi ? Réponse. J'ai dit, d'ailleurs, j'ai peut-être tort. Oh, bonté, tu ne prends pas tout cela pour un évangile, j'espère. Question. Tu veux dire que je ne suis pas censé accorder foi à ce dialogue ? Réponse. Oh la minute. Je crois que tu as loupé une grande partie de tout cela. Revenons à la case départ. Tu es en train d'inventer tout cela ? Question. Oh, alors quel soulagement ! À un moment, j'ai cru que je recevais vraiment des conseils réels. Réponse. Les conseils que tu reçois sont de suivre ton cœur. Écoute ton âme. Écoute ton soi. Même lorsque je te donne une option, une idée, un point de vue, tu n'as aucune obligation de l'accepter comme si c'était à toi. Si tu es en désaccord, alors sois en désaccord. C'est le seul but de cet exercice. Il ne s'agissait pas de substituer à ta dépendance envers tout et tout le monde une dépendance envers ce livre. Il s'agissait de t'amener à penser tout seul. Voilà qui je suis à présent. Je suis toi en train de penser. Je suis toi en train de penser tout haut. Question. Tu veux dire que le contenu de ce livre ne provient pas de la source la plus élevée ? Réponse. Bien sûr que si. Mais voici la seule chose que tu ne puisses pas encore croire. Tu es la source la plus élevée. Et voici la seule chose que tu ne sembles pas encore saisir. Tu es en train de créer tout cela, toute ta vie, ici même, à l'instant même. C'est toi, toi, qui le crie, pas moi, toi. Alors, y a-t-il des réponses à ces questions purement politiques que tu n'aimes pas? Dans ce cas, change-les, fais-le, maintenant, avant de te mettre à les prendre pour des évangiles, avant de te mettre à les rendre réels, avant de te mettre à croire que ta dernière pensée à propos d'une chose est plus importante, plus valide, plus vraie que ta prochaine pensée. Rappelle-toi, c'est toujours ta nouvelle pensée qui crée ta réalité, toujours. Alors, trouves-tu quoi que ce soit dans notre discussion politique que tu veux changer ? Question. Eh bien, pas vraiment. Je suis plutôt d'accord avec toi d'ailleurs. Je ne savais tout simplement pas quoi faire de tout cela. Réponse. Fais-en ce que tu veux. Ne comprends-tu pas ? C'est ce que tu fais de toute la vie. Question. D'accord, très bien. Je crois que j'ai pigé. J'aimerais poursuivre cette conversation, ne serait-ce que pour voir où elle s'en va. Réponse. Bien, faisons donc cela. Question. Tu étais sur le point de dire... Réponse. J'étais sur le point de dire que, dans d'autres sociétés, des sociétés éclairées, le fait de mettre de côté un montant fixe de ce qu'on reçoit, de ce que vous appelez le revenu, destiné à servir au bien commun de la société, est une pratique plutôt courante. Selon le nouveau système que nous explorons pour votre société, chacun gagnerait autant que possible à chaque année et retiendrait ses gains jusqu'à une certaine limite. Question : quelle limite ? Réponse : une limite arbitraire sur laquelle tout le monde s'entendrait. Question : et au-delà de cette limite ? Réponse : tout irait à la fiducie de charité mondiale au nom du donateur, pour que le monde entier connaisse ses bienfaiteurs. Les bienfaiteurs auraient l'option d'un contrôle direct sur le déboursement de 60% de leurs contributions, ce qui leur donnerait la satisfaction de mettre la plus grande part de leur argent exactement là où ils veulent. Les autres 40% seraient alloués à des programmes promulgués par la Fédération mondiale et administrés par elle. Question. Si les gens savaient qu'après une certaine limite de revenus, tout leur serait enlevé, quelle serait leur incitation à continuer à travailler ? Qu'est-ce qui les pousserait à ne pas s'arrêter à mi-chemin, une fois qu'ils auraient atteint leur limite de revenus ? Réponse. Certains s'arrêteraient. Et alors ? Qu'ils s'arrêtent. Le travail obligatoire au-delà de la limite de revenus avec des contributions à la fiducie charitable mondiale ne serait pas exigé. L'argent économisé à partir de l'élimination de la production massive d'armes de guerre serait suffisant pour subvenir aux besoins fondamentaux de chacun. La dîme de 10% de tout ce qui est gagné dans le monde entier, en sus de ses épargnes, élèverait toute la société, pas seulement les privilégiés à un niveau de dignité et d'abondance. Et les contributions, excédant la limite convenue, produiraient tant de chance et de satisfaction pour chacun que la jalousie et les colères sociales disparaîtraient presque. Alors, certains cesseraient vraiment de travailler, surtout ceux qui considéreraient leur activité comme un véritable travail. Mais ceux qui considéraient leur activité comme une joie absolue ne cesseraient jamais de travailler. Question. Un pareil emploi n'est pas à la portée de tout le monde. Réponse. Ce n'est pas vrai. C'est à la portée de tout le monde. La joie au travail n'a rien à voir avec la fonction et tout à voir avec le but. La mère qui se réveille à 4 heures du matin pour changer la couche de son bébé comprend parfaitement cela. Elle chantonne et roucoule devant le bébé, et ce qu'elle fait ne lui semble absolument pas être du travail. Mais c'est son attitude à propos de ce qu'elle fait. C'est son intention à cet égard. C'est son but, lorsqu'elle entreprend cette activité, qui rend son activité vraiment joyeuse. J'ai déjà utilisé cet exemple de maternité, car l'amour d'une mère pour son enfant, c'est ce qui se rapproche le plus de certains des concepts dont je parle dans ce livre et dans cette trilogie. Question. Mais encore, quel serait le but de l'élimination d'un potentiel de gain illimité ? Cela n'enlèverait-il pas à l'expérience humaine l'une de ses plus grandes chances, l'une de ses plus glorieuses aventures ? Réponse. Tu aurais encore l'occasion et la chance de gagner une somme ridicule d'argent. La limite supérieure des retenues sur le revenu serait très élevée, plus élevée que les besoins de l'individu moyen, de 10 individus moyens, et la somme de tes revenus possibles serait sans limite. Ce qui serait limité, ce serait uniquement la somme que tu choisirais de retenir pour ton usage personnel. Le reste, disons tout ce qui dépasse 25 millions de dollars par année, j'utilise un chiffre strictement arbitraire pour illustrer un argument, serait dépensé pour des programmes et des services qui bénéficieraient à toute l'humanité. Quant à la raison, au pourquoi de cela, la limite supérieure de revenus contrôlables serait le reflet d'un changement de conscience sur la planète, d'une prise de conscience que le but le plus élevé de la vie n'est pas d'accumuler la plus grande richesse, mais de faire le plus grand bien, et d'une prise de conscience corollaire que, en effet, la concentration de la richesse, et non son partage, est le plus grand facteur dans la création des dilemmes sociaux et politiques les plus durables et les plus frappants du monde. Question. L'occasion d'accumuler de la richesse, une richesse illimitée, est la pierre d'assise du système capitaliste, un système de libre entreprise et de compétition ouverte qui a produit la plus grande société que le monde ait jamais connue. Réponse. Le problème, c'est que tu crois cela. Question. Non, je ne le crois pas, mais je l'ai exprimé ici au nom de ceux qui le croient vraiment. Réponse. Ceux qui le croient vraiment se font d'immenses illusions et ne voient rien de la réalité actuelle sur votre planète. Aux États-Unis, la fraction la plus élevée de la population, 1,5%, détient plus de richesses que les 90% inférieurs. La valeur nette des 834 000 personnes les plus riches est supérieure de presque 1 trilliard de dollars à celle de l'ensemble des 84 millions de gens les plus pauvres. Question. Et alors, ils ont travaillé pour l'avoir ? Réponse. Vous autres, Américains, avez tendance à considérer le statut de classe comme une fonction de votre effort individuel. Comme certains ont réussi, entre guillemets, vous prenez pour acquis que n'importe qui le peut. Cette vision est simpliste et naïve. Elle prend pour acquis que chacun a une chance égale, tandis qu'en fait, en Amérique, autant qu'au Mexique, les riches et les puissants luttent et se battent pour s'agripper à leur argent et à leur pouvoir et pour les faire augmenter. Question. Alors, qu'y a-t-il de mal à cela ? Réponse. Ils le font en éliminant systématiquement la compétition, en réduisant au minimum, par voie institutionnelle, les chances véritables et en contrôlant collectivement la circulation et la croissance de la richesse. Ils le font par toutes sortes de moyens, des pratiques de travail injustes qui permettent d'exploiter les masses des pauvres du monde, jusqu'aux pratiques concurrentielles du réseau de vieux copains qui réduisent au minimum et détruisent presque les chances d'un nouveau venu d'entrer dans le cercle restreint des gens qui réussissent. Ils cherchent alors à contrôler la politique et les programmes gouvernementaux dans le monde entier afin de s'assurer encore davantage que les masses de gens demeurent réglées, contrôlées et soumis. Question. Je ne crois pas que les riches fassent cela, pas la majorité. Il y a peut-être une poignée de conspirateurs, je suppose. Réponse. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas les riches, en tant qu'individus qu'ils font, mais les systèmes sociaux et les institutions qu'ils représentent. Ces systèmes et institutions ont été créés par les riches et les puissants, et ce sont les riches et les puissants qui continuent de les soutenir. En appuyant de tels systèmes sociaux et institutions, ces individus peuvent se laver les mains de toute responsabilité personnelle quant aux conditions qui oppriment les masses tout en favorisant les riches et les puissants. Par exemple, revenons aux soins de santé en Amérique. Des millions de pauvres en Amérique n'ont aucun accès aux soins médicaux préventifs. On ne peut pas pointer du doigt un individu médecin en disant « c'est toi, c'est ta faute ». Si, dans le pays le plus riche du monde, des millions de gens ne peuvent entrer voir un médecin à moins d'être en sérieuse difficulté dans une salle d'urgence. Aucun individu médecin n'est à blâmer pour cela, mais tous les médecins en bénéficient. Toute la profession médicale et toute l'industrie alliée jouit de profits sans précédent provenant d'un système de livraison des soins qui a institutionnalisé la discrimination envers les travailleurs pauvres et les chômeurs. Et ce n'est qu'un exemple de la façon dont « le système » entre guillemets maintient les riches riches et les pauvres pauvres. L'essentiel, c'est que ce sont les riches et les puissants qui soutiennent de telles structures sociales et qui résistent obstinément à tout effort réel de les changer. Ils s'opposent à toute approche politique ou économique qui cherche à fournir une chance véritable et une dignité authentique à tous les gens. La plupart des riches et des puissants, pris individuellement, sont certainement des personnes sympathiques, doté d'autant de compassion et de sympathie que quiconque, mais mentionne un concept aussi menaçant pour eux que les limites annuelles de revenus, même les limites ridiculement élevées telles que 25 millions de dollars annuellement, et ils commenceront à se plaindre de l'usurpation des droits individuels, de l'érosion de l'American Way et de la perte de motivation. Mais que dire du droit de tous les gens à vivre dans un cadre d'une décence minimale, avec suffisamment de nourriture pour ne pas mourir de faim, suffisamment de vêtements pour rester au chaud? Et les droits des gens de partout à recevoir des soins de santé adéquats, le droit de ne pas avoir à souffrir ou à mourir de complications médicales relativement mineures que les possédants surmontent en claquant du doigt. Les ressources de votre planète, y compris les fruits du labeur des masses, des indescriptiblement pauvres qui sont continuellement et systématiquement exploités, appartiennent à tout le monde et non seulement à ceux qui sont suffisamment riches et puissants pour procéder à l'exploitation. Voici comment fonctionne l'exploitation. Vos riches industriels vont dans un pays ou une région où il n'y a aucun travail, où les gens sont démunis, où il existe une pauvreté abjecte. Les riches y établissent une usine, offrant à ces pauvres gens des emplois, parfois des emplois de 10, 12 et 14 heures par jour, pour des salaires inférieurs aux normes, pour ne pas dire inférieurs à la dignité humaine. Ce n'est pas suffisant, dit donc, pour permettre à ces travailleurs d'échapper à leur village infesté par les rats, mais juste assez pour les laisser vivre ainsi, par opposition à n'avoir ni nourriture ni abri. Et lorsqu'on les appelle là-dessus, ces capitalistes disent « Eh, ils vivent tout de même mieux qu'avant, non ? Nous avons amélioré leur situation. Les gens acceptent ces emplois, non ? Dites donc, nous leur avons accordé des chances, et c'est nous qui prenons tous les risques. » Mais quel risque y a-t-il à payer des gens 75 cents l'heure pour fabriquer des souliers de course qui vont se vendre à 125 dollars la paire ? Est-ce un risque ou de l'exploitation pure et simple ? Un tel système d'obscénité, crasse, ne pourrait exister que dans un monde motivé par l'avidité, où la marge de profit, et non la dignité humaine, est la première considération. Ceux qui disent que, par rapport aux normes de leur société, ces paysans se portent à merveille, sont des hypocrites du pire acabit. Ils jetteraient une corde à un noyer, mais refuseraient de le tirer vers la rive. Puis, ils se vanteraient du fait qu'une corde vaut mieux qu'une pierre. Plutôt que d'élever les gens à la dignité véritable, ces possédants donnent aux démunis du monde juste assez pour les rendre dépendants, mais jamais suffisamment pour leur donner de pouvoir véritable. Car les gens qui ont un pouvoir économique véritable ont la capacité, ensuite, d'agir sur le système, au lieu d'y être tout simplement soumis. Et c'est la dernière chose que veulent les créateurs du système. Alors, la conspiration continue. Et pour la plupart des riches et des puissants, ce n'est pas une conspiration d'action, mais une conspiration du silence. Alors, va maintenant, poursuis ton chemin, et ne dis rien de l'obscénité d'un système socio-économique qui récompense un dirigeant de compagnie d'une prime de 70 millions de dollars pour avoir fait augmenter les ventes d'une boisson gazeuse, tandis que 70 millions de gens ne peuvent se permettre le luxe d'en boire, et encore moins de manger suffisamment pour rester en santé. N'envoie pas l'obscénité. Appelle cela l'économie mondiale de libre marché et dis à chacun à quel point tu en es fier. Mais il est écrit, si tu veux être parfait, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Mais lorsque le jeune entendit cela, il partit, plein de regrets, car il avait un grand nombre de biens.